Je commence par vous souhaiter une bonne fête de Pentecôte ce matin. Vous savez que c'est la Pentecôte quand même, non? Je sais que nous les évangéliques, c'est pas une fête dont on s'occupe beaucoup, hein? C'est une fête qu'on regarde en disant. Et pourtant, dans la chrétienté, aujourd'hui, c'est une grande fête pour énormément d'églises, parce que pour beaucoup d'églises, vous savez que le courant de la Pentecôte, du mouvement de Pentecôte, est de plus en plus le courant le plus nombreux dans la famille des chrétiens. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la réalité. Enfin, on verra. Ce matin, je propose peut-être une petite... Ça n'a pas l'air de trop crier là, ou c'est moi qui crie? Ça va, tout va bien? Vous n'êtes pas assommé par ma voix, par mes... Si vous sentez que j'exagère, vous me dites, Gaston. Baisse. Chez moi, c'est l'inverse. Hein. Beaucoup, on doit leur dire « monte ». Chez moi, on doit dire « baisse ». Alors, ce matin, j'ai vraiment à cœur peut-être d'être en union avec tous ceux qui fêtent la Pentecôte, avec les églises qui fêtent la Pentecôte. Je voudrais être en union avec eux. Je voudrais aussi en même temps que nous, les évangéliques, puisque c'est comme ça qu'on se situe dans la famille, dans le courant des protestants, j'aimerais que nous aussi, nous puissions quelque part nous rapprocher un peu et comprendre un peu plus quelle est la différence, qu'est-ce qui est pertinent dans ce mouvement de la Pentecôte, mais en même temps aussi la différence avec nous et quel accueil nous pouvons aussi réserver à ce mouvement. Alors, le titre de ma prédication, c'est « La Pentecôte ». Et sa portée spirituelle dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Waouh, c'est un long titre, hein. C'est un long titre qui veut simplement dire qu'est-ce que la Pentecôte a à voir dans nos vies à nous, chrétiens, aujourd'hui. Alors, donc ce matin, je vais peut-être vous paraître un peu académique, scolaire, à certains moments. Ce n'est pas c'est fait exprès. C'est parce que je crois qu'une des choses dont nous sommes pauvres, nous les chrétiens, c'est la connaissance de la réalité chrétienne. On connaît bien ce que nous lisons chaque jour. On connaît bien ce qui nous est prêché. Et encore, je suis certain que si je vous tape une prédication d'il y a à peine 6 mois, je pense que personne ne le reconnaîtra. Vous savez qu'il m'est déjà arrivé de prêcher 3 fois sur l'église de Sardes, ici. Il n'y a personne qui a moufté. Bon, oui, c'est vrai. Je dois avouer que je n'ai pas dit la même chose. C'était le même texte, mais j'ai exploité chaque fois des aspects différents. Mais personne n'a dit, mais ce texte-là, je me souviens que... Vous voyez, mais bon, enfin, je fais pas ça, je vais quand même être honnête devant Dieu, que je dois faire mon travail comme il faut, donc je vais pas vous taper les mêmes prédications 1 million de fois. Non, rassurez-vous, chaque prédication est quand même authentique, elle est quand même unique, c'est un fruit du travail. J'aimerais aussi vous partager ce matin sur la Pentecôte, parce que c'est aussi un peu mon expérience personnelle. Moi, je me suis converti dans les milieux de la Pentecôte. Au Congo, ce sont des milieux qui sont les plus en activité par rapport à l'évangélisation, par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et donc, je suis né spirituellement dans ce mouvement de la Pentecôte et aussi un peu dans le mouvement charismatique. Et j'ai évolué un tout petit peu là-dedans, mais en cours de route, en arrivant en Belgique, j'ai vraiment voulu faire une recherche honnête avec Dieu pour savoir comment me situer spirituellement. Et petit à petit, en ouvrant ma Bible et en découvrant tout ce qu'on peut avoir avec la Bible, j'ai carrément pris une posture évangélique. Chez moi, être évangélique, c'est parce que je suis né dedans. Je suis pas né évangélique. C'était un choix que j'ai fait à la lumière de la parole de Dieu. Et je reste quand même enrichi par mes premiers pas en tant que pentecôtiste, mais je suis un évangélique de pur et dur, si on peut dire comme ça, mais ouvert à entendre aussi ce qui se passe aussi ailleurs. Alors, c'est ce qui va aussi un peu animer tout ce que je vais partager avec vous, et j'espère que je serai assez bref. Prions, demandons la grâce de Dieu, demandons l'aide de Dieu pour que sa parole s'implique, s'implimente dans notre vie, devienne la parole pour nous, la nourriture d'aujourd'hui pour nous. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la Pentecôte. Merci pour le fait que avec tout ce que tu accomplis, tu es en route pour l'établissement de ton royaume, de ta souveraineté. Tu es là, Seigneur, en train de bâtir, Seigneur, ton œuvre, afin que là où toi tu vas être et ce que tu vas faire, nous en soyons des ouvriers, mais aussi des témoins admiratifs. Conduis-nous ce matin dans cette petite réflexion, cette petite méditation autour de la Pentecôte et permets que nous aussi, nous ayons chacun une part enrichie de ce matin. Conduis-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez que la Pentecôte est une des quatre grandes fêtes les plus importantes de la chrétienté. Les chrétiens fêtent Noël, Pâques, Ascension et Pentecôte. Je ne parle pas de l'Assomption, c'est une fête particulière chez les catholiques. Et j'aimerais juste une petite et courte réflexion sur la portée spirituelle de la Pentecôte aujourd'hui. D'abord, donc je propose trois choses qu'on va faire. Première chose, on va d'abord faire un petit parcours biblique, mais court, pas beaucoup, pour comprendre et replacer la Pentecôte dans le contexte de la Bible. Parce que la Pentecôte ne commence pas en Actes des Apôtres. Ça a déjà ses racines dans l'Ancien Testament. Deuxième point, on va quand même évoquer un peu le pentecôtisme d'aujourd'hui, voir un peu en quoi ça consiste. Et puis, le troisième point, je pense que c'est le cœur de ce que j'ai à partager ce matin, c'est que la Pentecôte, ce n'est pas seulement la fête du début de l'Église, c'est pas seulement que la fête de cette effervescence incroyable, c'est d'abord et avant tout la fête du Saint-Esprit. Peut-être c'est le moment de se demander qui est le Saint-Esprit, que fait-il dans nos vies. Ça, c'est le troisième point. Premier point, petit parcours biblique. Le mot Pentecôte évoque en grec le chiffre 50, tout bêtement, ou plus précisément 50e. 50e sous-entendu 50e jour. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte est en lien direct avec la fête des gerbes de la moisson, ou la fête des prémices, ou la fête des semaines. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non? Et c'est une fête qui a été ordonnée par Dieu. Nous allons voir cela dans le livre d'Exode, chapitre 24. Nous allons regarder les extraits où Dieu ordonne, mais il veut pas ici, au secours. Il est fâché avec... Jerry, ça fonctionnait avec toi? Et puis ça a refusé. Bon. Il fait assez. C'est peut-être bien. C'est peut-être un bon signe. Il fait assez. Bon, c'est pas grave. On va avancer avec les autres paroles. Alors, regardez ce que Dieu ordonne. Il dit, trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Ça, c'est une première fête. Pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti de l'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson. Deuxième fête, des prémices de ton travail, donc les premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et puis, troisième fête, la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Trois fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Donc, Dieu avait rythmé la vie du peuple d'Israël. Il y avait plusieurs événements importants qui étaient des événements festifs, des fêtes, des commémorations. Et vous savez que les toutes grandes, c'est le grand pardon, le Yom Kippour, c'est la Pâque, c'est, il y a toute une série de grandes fêtes. Mais Dieu avait ordonné que sur une année, il y ait trois fêtes. Et ce sont ces trois fêtes qui sont là. La fête des pains, sans levain, la fête des prémices et la fête de la récolte. Et ces trois fêtes-là devaient se présenter chaque année et pour ces fêtes-là, le peuple devait chaque fois se retrouver tous ensemble au temple. Ils devaient se réunir là au temple. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, il y avait tant de monde là-bas à Jérusalem. Alors, c'est une fête qui est en fait une espèce de célébration, de remerciement à Dieu. C'est une fête pour célébrer la gloire de Dieu, dire merci à Dieu pour cela. Et donc la Pentecôte correspond justement à cette fête, c'est la Pentecôte juive ici, hein. Ça correspond à cette fête où justement on présente les premiers fruits de la récolte. On présente les premiers résultats de ce qu'on a récolté devant Dieu. C'est comme, et j'aime bien le mot prémisse, parce que derrière le mot prémisse, il y a cette idée que c'est le commencement, c'est le début, c'est le balbutiement. C'est quelque chose qui annonce d'autres choses encore plus grandes. Comprenez? Et c'est ça, en fait, le sens de la Pentecôte. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Dieu avait ordonné, je vais pas revenir sur ce texte-là, mais Dieu avait ordonné à son peuple de compter 7 semaines. À partir de la fête de Pâques, vous comptez 7 semaines pour cette fête-là. Et 7 semaines, ça fait 49 jours ou 50 jours. Voyez? Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la fête des semaines, parce que vous devez compter les semaines. Et donc, objectivement, la Pentecôte tombera toujours 50 jours après la Pâque. Et voyez, c'est drôle parce que là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Il s'agit de la Pentecôte juive. Je ne vais pas aller trop dans le détail parce que c'est une fête fantastique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. Mais vous remarquez quand même qu'il y a une drôle de coïncidence, n'est-ce pas, avec la Pentecôte chrétienne. Puisque si vous comptez la Pentecôte chrétienne, elle a lieu 50 jours après que Jésus soit ressuscité. Et c'est une coïncidence qui n'est pas due au hasard. C'est parce qu'il y a beaucoup de points communs entre cette Pentecôte-là, sa signification, et la Pentecôte chrétienne et sa signification. Remarquez, on parle bien de la moisson. Et on parle bien des prémices de la moisson, les premiers fruits de la moisson. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte chrétienne? Le Saint-Esprit, qui a été promis, descend. Comment descend-il? Comme des langues de feu. Est-ce que c'est une langue de feu immense? Non, c'est une langue de feu qui descend sur chaque personne, qui est individualisée aux gens. Et toutes ces images ne sont pas des images fantaisistes de la part de Dieu. C'est des images qui ont du sens. À la Pentecôte, Dieu envoie son Saint-Esprit qui descend sur chaque personne, sur les gens qui ont cru en lui. Nous y reviendrons. Deuxième point. La fête de Pentecôte aujourd'hui est une fête largement célébrée par les églises pentecôtistes. Comme si c'était une fête uniquement des pentecôtistes. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La fête de la Pentecôte, c'est une fête qui nous concerne tous. Pentecôtistes, évangéliques, libéraux ou orthodoxes, peu importe. Toute la famille, la grande famille des protestants. Vous savez que notre façon de croire en tant que protestants, dans le contexte d'aujourd'hui, se présente de 4 manières. Vous savez ça? Un peu de théologie à la cuillère, là. toute petite théologie. Vous savez que nous avons quatre grands courants au sein des protestants. On a ce qu'on appelle les protestants évangéliques, c'est comme nous, j'expliquerai en quoi ça consiste. Et puis, on a les protestants qu'on appelle les spiritualistes, c'est tous ceux qui croient au Saint-Esprit, tous ceux qui sont pentecôtistes, charismatiques, etc. Et puis, vous avez les protestants qu'on appelle les protestants libéraux, ce ne sont pas vraiment nos copains, mais enfin, ils existent malheureusement, que dis-je, respectons-les, ils existent. Okay. Et puis, il y a les protestants qu'on appelle les protestants néo-orthodoxes, c'est-à-dire qui ont un courant qui... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, donc nous sommes des pentecôtistes, mais le courant pentecôtiste... Nous sommes des évangéliques, pardon, mais le courant pentecôtiste est un courant différent. Peut-être qu'il vaut mieux que nous puissions comprendre en quoi consiste le pentecôtisme. Ça peut nous aider un peu plus. Vous devez savoir que le pentecôtisme est né au XXe siècle aux États-Unis. Il y a deux noms remarquables que vous pouvez juste retenir qui font en fait le début du pentecôtisme. Il y a un certain Charles Fox Parham qui était un Américain et un autre qui s'appelle William James Seymour, mais c'est William James Seymour qui est le plus connu. En fait, ces deux hommes étaient à la recherche d'une expérience profonde avec Dieu. C'était des gens extrêmement pieux qui sont rentrés dans un moment de prière, dans une vie de prière, dans un engagement dans la prière, mais d'une manière assidue. Et tout doucement, il est né de leur part, il est né une conviction que Dieu veut un engagement total des chrétiens et en retour, Dieu veut que le chrétien expérimente la puissance de Dieu comme à la Pentecôte. Et de là, James, d'abord ça commence avec Charles Parham qui commence par vivre quelque chose comme une expérience forte à l'issue duquel il a commencé à parler en langue. Et il a fixé ça en disant, ça doit être une nécessité chez tous les chrétiens. Et puis ensuite, William Seymour, qui était présent le jour où ça se passait, a intégré ce principe-là et a voulu l'expérimenter à son niveau. Et effectivement, il y a eu plusieurs parlers en langue, plusieurs manifestations du Saint-Esprit qui ont fait que, à partir de là, ils ont fixé que c'est une expérience spirituelle qui en vaut la peine. Le reste a été une construction biblique pour essayer de rendre compte de ça. Le parler en langue, ça existe véritablement, mais le problème, c'est que la démarche qui pose problème dans cet élan de piété, c'est le fait que je recherche une expérience avec Dieu. Et peu importe la base de l'expérience avec la Bible. Mais je recherche d'abord quelque chose que je peux ressentir, que je peux vivre avec Dieu. Le pentecôtisme fait bien partie du mouvement des protestants. C'est un courant des protestants. C'est un mélange, en tout cas en ce qui concerne le début du pentecôtisme. Après, ça change. Hein. Et puis, vous savez, Charles Parham était un blanc et William Seymour était un noir. Et Charles Parham n'acceptait pas du tout l'idée que des Noirs puissent vivre l'expérience de la Pentecôte. Pour lui, l'expérience de la Pentecôte était réservée aux Blancs, uniquement. Et Charles Parham, William Seymour, quand il a vécu ça, il s'est dit, waouh, ça veut dire que Dieu veut l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Alors imaginez-vous, fils d'esclave, et l'autre là-bas, fils de propriétaire d'esclaves, qui vont arriver à se dire, bon, l'un arrive à dire à l'autre, moi, je pense qu'on est fait pour, dans le Seigneur, vivre ensemble en communauté. Ça pose énormément de problèmes. Certains mouvements extrémistes au sein du pentecôtisme sont nés de ça. Vous connaissez peut-être des mouvements comme le Ku Klux Klan, qui prônent la supériorité de la race blanche sur les autres races. Eh ben, c'est né aussi de ce pentecôtisme. Pourtant, le pentecôtisme est le courant protestant qui a le plus d'adhérents. de tous les protestants, c'est eux qui sont les plus nombreux. Mais c'est celui qui fait le plus peur. Pourquoi? Parce que sa percée a entraîné beaucoup de débordements, beaucoup d'égarements sectaires. Donc, actuellement, vous savez ce mouvement qui s'appelle les églises de réveil. C'est un mouvement qui fait partie de ce mouvement-là, qui fait partie de ce courant-là. Et aux États-Unis, malheureusement pour les évangéliques, on mélange les évangéliques et les pentecôtistes. De sorte que ce qui se passe avec les pentecôtistes, on dit que c'est les évangéliques. Mais il y a une différence. Quelle est la différence entre les pentecôtistes et les évangéliques? Alors, je précise d'abord. Les évangéliques, les pentecôtistes ne sont pas les ennemis des évangéliques. Vous devez le comprendre. Deuxième chose, je précise que les pentecôtistes, ce sont des protestants, comme nous. Je précise encore que tous les pentecôtistes ne sont pas des fous, débordants, sectaires. Hein? Voilà, je le précise. Il y a des pentecôtistes modérés, sérieux et qui ont une démarche sincère avec Dieu. Mais quelle est la différence entre les pentecôtistes et les évangéliques? Donc, nous sommes tous des enfants de la réforme. On partage les points essentiels, l'autorité de la Bible, le sacerdoce universel, le salut par la grâce au moyen de la foi. Tout ça sont des points qu'on partage avec les pentecôtistes. Mais ce qui fait la différence, c'est que d'abord, il y a deux points qui font la différence. D'abord, un, c'est la place du baptême du Saint-Esprit. Alors, pour les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit est comme une deuxième expérience. On se convertit, puis on prie pour que le Saint-Esprit descende. Un peu comme à la Pentecôte. Or, pour les évangéliques, la Pentecôte est une expérience unique. D'ailleurs, le sens du mot Pentecôte, en tant que, on a vu avec l'Ancien Testament, la notion du premier fruit, du prémisse, du commencement, on n'a pas plusieurs commencements. On n'a qu'un seul commencement. Et on va comprendre aussi, un peu rapidement aujourd'hui, en quoi il y a un commencement ici. Donc, pour les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit est une deuxième expérience. Alors que, pour nous, bibliquement parlant, c'est une expérience, le baptême du Saint-Esprit est une expérience liée avec le salut. 1 Corinthiens, je propose la lecture, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Mais ça m'embête, non pas. Alors, regardez, 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Dans quel but? Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est le fameux bain de la régénération dont parle l'apôtre Paul en Tite. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que nous avons, par notre salut, par le fait d'être sauvés, plongé dans la famille de Dieu pour revêtir cette identité à la fois d'enfant de Dieu et de serviteur de Jésus-Christ. C'est une expérience qui se fait à la nouvelle naissance et pas comme une deuxième expérience. Ça, c'est notre position en tant qu'évangélique et elle se fonde sur ce texte biblique. Évidemment, nous concédons aux pentecôtistes le fait que il y a une nécessité dans notre vie d'être rempli du Saint-Esprit. On fait la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Nous avons tous, sans considération de courant, tous, bibliquement parlant, besoin d'être remplis du Saint-Esprit chaque jour de notre vie. C'est comme si le chrétien avait comme un carburant, un peu comme une voiture, à force de rouler, la voiture, son carburant diminue. Et quand le carburant diminue et que vous êtes en panne sèche, vous avez vraiment l'air malin. Vous êtes d'accord avec moi? À qui est-ce que c'est déjà arrivé d'être en panne sèche? Ah! Et c'est pas rigolo, hein? Parce que ça crée des angoisses, on se dit zut. Moi ça m'est déjà arrivé, et ça m'est même arrivé déjà pire, parce que ça m'est arrivé d'être en panne sèche et d'aller me resservir du carburant, mais de mettre du diesel à la place de l'essence. Ça n'était quand même pas très, très... à la rigueur du carburant, de l'essence, du diesel sur l'essence, ça va encore. Mais l'essence sur le diesel, c'est terminé. Hein. Ça m'a valu beaucoup de soucis, vraiment, parce qu'il fallait payer. Il fallait payer aussi pour les réparations de la voiture, du moteur. Eh bien, le Saint-Esprit est un peu comme notre carburant. Nous avons besoin de lui pour pouvoir aller chaque jour plus fort, plus grand. Je vous propose juste le texte. Le texte est plus parlant. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est ça un devoir de tous les jours. Le texte en hébreu, je crois que beaucoup le savent, veut dire « être en train d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Voilà. » C'est un mouvement qui doit être un mouvement continu. C'est pas un mouvement qui doit s'arrêter. C'est un mouvement qui doit toujours être continu. Le chrétien doit se soucier de la place du Saint-Esprit dans sa vie. Il doit toujours se dire, waouh, est-ce que, au moment où je suis, dans la vie où je suis, est-ce que je suis en marche avec le Saint-Esprit? Et sinon, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, s'il te plaît. D'ailleurs, on a intérêt. Que dit Paul à propos du Saint-Esprit? Il dit que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Franchement, moi, c'est pas ces trois choses que je demande tous les jours à Dieu. Donne-moi ça. Parce que sans ça, je sais pas comment je vais avancer. Donc, nous sommes d'accord avec l'idée que, oui, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est là peut-être le point positif de nos amis les pentecôtistes. C'est que cette activité qui consiste à rechercher le Saint-Esprit est une activité qui est vivante chez eux, beaucoup plus chez nous. Nous avons morcelé les choses, on a Jésus et un point barre. Non, nous pouvons aussi demander d'être remplis du Saint-Esprit. Ça se demande par la prière, hein. C'est pas un truc qu'il faut commencer à faire, à sauter, à danser, à faire n'importe quoi. Non, on le demande par la prière, on le demande à la foi. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. C'est tout. Et on croit que le Seigneur l'accorde, puisque il le dit lui-même, celui qui demande quelque chose venant de Dieu, eh bien Dieu l'accorde. Première différence donc, c'est sur la question du baptême de l'Esprit. Deuxième différence, c'est sur le fait que notre expérience du Saint-Esprit, à nous les évangéliques, est ancrée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et la Bible interprétée rigoureusement. On n'interprète pas la Bible n'importe comment. Il y a des contextes dans lesquels on doit aborder la parole de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je n'aime pas que la parole devienne un prétexte pour moi pour dire n'importe quoi. J'ai envie d'engueuler Matthieu. J'ai envie de trouver des prétextes pour dire que Matthieu, il est mauvais. Alors, je cherche un verset biblique qui dit oui, car tu es mauvais et que tu es... Matthieu, ça parle de toi, hein? C'est pas ça. C'est pas ça, le texte biblique. Le texte biblique, c'est pas moi qui dois commander au texte de me dire quelque chose. C'est le texte qui me renvoie les vérités, qui me renvoie les choses. C'est le texte qui me parle et qui me touche, qui me secoue, qui me dit, hé, attention, et qui me corrige. C'est le texte de la parole de Dieu. C'est pas moi qui fais n'importe quoi avec la parole. Or, le problème de ancrer son expérience d'une manière relative avec la parole de Dieu, pousse le danger que nous pouvons parfois être en train d'interpréter des choses d'une manière fausse. Et je pense que ça, c'est une grosse différence, cet ancrage strict dans la parole de Dieu. Et donc, il y a une démarche basée sur la foi et non pas sur la manifestation physique de la puissance de Dieu. L'obsession à vouloir toujours que quelque chose se passe quand je prie est un vrai danger. Parce que vous savez dans la Bible que parfois Dieu s'exprime dans la brise légère. Parfois, on ne l'entend pas quand il agit. Parfois, il est là et on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne sent pas sa présence. Mais vouloir que quelque chose se passe, exiger qu'il y ait toujours quelque chose émotionnellement, etc., ça peut créer des débordements et des dangers. Les gens équilibrés vont savoir comment gérer ça, mais les gens pas du tout équilibrés, ça va être une source de désordre. J'ai particulièrement assisté un jour à une séance de prière, au cours duquel un gars a dit qu'il avait des démons sur lui. Et on a commencé à prier, et puis en pleine prière, il a dit « Gaston, maintenant le démon a dit qu'il faut arrêter maintenant, parce que il est fatigué, on va reprendre ça plus tard. » Là, on s'est regardé, on s'est dit « il y a quelque chose qui tourne pas rond. » Eh bien, on a arrêté la prière là, on s'est un peu informé. En fait, le pauvre garçon, il souffrait de troubles maniaco-dépressifs. C'est tout simplement, il était malade mentalement. Et nous avons cru, enfin, il nous a fait croire qu'il y avait des démons avec lui. Voyez, les gens équilibrés, ça ne posera pas de problème dans cette démarche-là. Mais les gens pas du tout équilibrés, ça pourrait devenir un vrai problème ou une source de commerce et d'intérêt. Et d'autres débordements, je n'en parlerai pas parce que j'ai pas envie d'enfoncer mes amis les pentecôtistes. Mais voilà, restons évangéliques et écoutons parfois les pentecôtistes là où on peut être d'accord avec eux. Troisième point, j'essaie d'aller vite, c'est plus que simplement une fête des pentecôtistes, c'est d'abord la fête du Saint-Esprit. C'est l'accomplissement du miracle, c'est l'accomplissement de la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Marie-Luce a lu un extrait de cela. Elle a parlé de ce que Jésus a dit en disant « Je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie un autre consolateur ». Nous allons peut-être voir ce texte-là aussi, nous allons lire ce texte-là aussi. La promesse la plus immédiate que Jésus fait, c'est en Actes chapitre 1, verset 8. N'est-ce pas ? Il dit à ses disciples de rester à Jérusalem et leur dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » On dit souvent que la Pentecôte, c'est la fête du début de l'Église. Et c'est vrai. Mais c'est la fête de celui qui rend possible le début de l'Église. Et c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, en venant sur les croyants, les a rendus capables d'être des témoins, de pouvoir témoigner, de pouvoir parler de lui. Mais cette promesse, Jésus l'avait déjà faite bien avant aussi. Nous allons lire quelques extraits de cela et je vais relever certains points sur la personne du Saint-Esprit à travers ces textes-là. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera... » Qu'est-ce qui est écrit ? Il vous donnera un consolateur ? Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Deux choses sur la personne du Saint-Esprit. Un autre consolateur. Qui était le premier ? Bien, Georges, Jésus. Un autre, ça veut dire qu'ils sont du même rang. Oui ou non ? C'est un collègue à lui. Ils sont du même niveau. Et c'est là toute la richesse où l'on voit apparaître toute cette notion de la Trinité. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Il est Dieu. Et l'on voit que c'est un consolateur. Ça veut dire quoi un consolateur dans le texte ici ? C'est quelqu'un qui vient pour se mettre à côté de toi, un peu comme un avocat, pour te défendre. un peu comme un avocat pour te soutenir dans ton combat. Un peu comme quelqu'un qui vient te conseiller, quelqu'un qui se met à côté de toi pour t'accompagner, qui pleure avec toi, qui rit avec toi, qui te conseille, qui t'entoure, qui est avec toi dans ton expérience personnelle. C'est ça, un autre consolateur. D'ailleurs, le texte le confirme puisqu'il dit, on le connaît, puisqu'il demeure avec nous, il demeure en nous. Nous sommes l'habitation de l'Esprit. L'apôtre Paul va dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Deuxième texte, Jean chapitre 15, toujours le verset 26. Quand il sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du peuple, du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit ne peut pas dire autre chose que ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit ne peut pas parler de lui. Il ne vient pas pour parler de lui. Il vient pour parler de Jésus. Il vient pour glorifier Jésus. Il vient pour accomplir l'œuvre que Jésus a commencée. Il vient pour se mettre au service de Jésus. Mes amis, il y a des églises pentecôtistes qui ont fini par mettre Jésus à la poubelle et faire seulement parler que du Saint-Esprit. Nous autres évangéliques, nous commettons une erreur si nous mettons le Saint-Esprit à la poubelle en disant qu'il n'y a que Jésus. C'est la Trinité. Le Saint-Esprit travaille pour Jésus. Il travaille pour l'œuvre de Jésus-Christ, pour l'établissement du royaume de Dieu. Troisième texte, Jean chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Eh, c'est revenu. Chouette, merci. Je ne sais pas quoi, merci à qui, à toi ou à... Voilà, merci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, tiens, je ne vais pas trop aujourd'hui m'arrêter sous ce mot « Esprit de vérité », mais vous remarquez qu'il est, c'est tout le temps mentionné, et Jésus dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie », la notion de la vérité. Mais il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voyez, ici, c'est vraiment l'expression par excellence de la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une trinité qui se présente aussi d'une manière fonctionnelle. C'est pas seulement une trinité relationnelle, c'est-à-dire le comble de l'amour. Si quelqu'un veut savoir si Dieu est amour, regardez la trinité. Ça, c'est le côté relationnel. Mais il y a le côté fonctionnel au niveau du salut. Regardez ce qui se passe. Le Père a pris l'initiative, a fait le plan du salut. C'est le Père qui voulait le salut des âmes. Le Fils a réalisé ce salut. Il a dit, Père, tu veux tellement ça que je veux, moi, faire en sorte que ça soit faisable. Le Fils réalise, rend réalisable ce projet. Et le Saint-Esprit rend possible cela pour chaque personne. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre, c'est celui qui va nous parler dans notre cœur pour que nous regardions la croix et que nous disions, oui, je suis pécheur, c'est vrai que Christ est mort à la croix pour moi. Ce moyen que Dieu a mis pour être sauvé, eh ben, ça me concerne moi aussi et je veux aller vers ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Vous voyez, ils sont complémentaires, ils sont ensemble pour la même œuvre. C'est pour ça que je comprends très bien la notion des langues de feu qui descendent sur chaque disciple. Voyez, c'est l'habitation spirituelle, c'est l'expérience personnalisée de chaque individu. C'est ça le Saint-Esprit. C'est, il nous est donné comme quelqu'un qui va être notre partenaire personnel, qui va habiter en nous et qui va nous conduire et qui va être celui qui va nous aider à aller de l'avant et à vivre la vie de Dieu en nous. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui opère la vie nouvelle. L'apôtre Jean dit, Souvenez-vous, Jean chapitre 3, avec l'entretien avec Nicodème, il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il faut une naissance par le Saint-Esprit. C'est lui qui opère la nouvelle naissance. C'est lui qui fait que la nouvelle vie en Christ devienne possible en nous. Donc, le Saint-Esprit est une personne pas du tout négligeable dans nos vies de chrétiens. Je vais lire encore un texte, et peut-être c'est le dernier. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 à 16, qui montre vraiment notre vraie et réelle identité. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est un texte que nous devons lire lentement, parce qu'il est trop riche et bien intéressant. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, il peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Le Saint-Esprit œuvre à notre identité d'enfant de Dieu. C'est lui qui fait de nous des êtres spirituels, des êtres capables de comprendre la pensée de Dieu, des êtres capables de pouvoir vivre cette vie de Dieu dans ce monde. Les gens capables de pouvoir avoir cette culpabilité qui est complètement enlevée de nous, qui sont capables de vivre dans l'approbation de Dieu. C'est une réalité extraordinaire. Il y a d'autres textes, et des tas d'autres textes encore, qui parlent du travail du Saint-Esprit dans nos vies. Mais peut-être que je vais juste m'arrêter là ce matin. En tant que chrétien, on se rend compte que nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit. C'est notre partenaire. C'est notre leader. D'ailleurs, il dit « vous conduira dans la vérité ». Un leader, c'est un conducteur. Ainsi, à la Pentecôte, nous célébrons les prémices de la moisson, les premiers fruits de la moisson, le début de l'Église, le commencement de l'œuvre de Dieu, de cette grande moisson d'âmes qui va être gagnée pour Christ. Après tout, c'est ça la vocation de l'Église, n'est-ce pas? C'est d'être le témoignage pour le monde, la vitrine de Dieu pour le monde, pour gagner des âmes à Christ. C'est une moisson. C'est Jésus qui le dit, n'est-ce pas? La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. C'est Jésus qui parle de l'Église et du fait de gagner les âmes comme une moisson. Et la Pentecôte, c'est les prémices, c'est le début, c'est le commencement. C'est la promesse de quelque chose d'incroyable qui va continuer. Nous fêtons à la Pentecôte aussi et surtout la venue du Saint-Esprit comme l'accomplissement d'une promesse, la promesse que Jésus a faite à ses disciples, comme le premier fruit, le commencement de l'œuvre de la moisson, parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'animateur principal de cette œuvre. C'est un peu comme si Dieu descend sur le terrain et dit, les gars, allez, on y va, on moissonne, on y va. C'est Dieu lui-même qui vient à travers le Saint-Esprit pour travailler à la moisson des âmes. Quand le Saint-Esprit descend, on voit que ce sont des vies qui changent. On voit que c'est des cœurs qui se consacrent à Dieu. C'est des gens qui aiment les autres et qui aiment Dieu. À la Pentecôte, Dieu commence une œuvre qui promet d'être immense, dont la moisson sera abondante, et il vient lui-même pour travailler. Alors, c'était juste une question. Qu'est-ce qu'on fait à la Pentecôte? N'est-ce pas cette incroyable portée spirituelle dans nos vies. N'est-ce pas cette incroyable transformation de vie et des cœurs, du paysage historique même, de l'humanité? Ce qui se passe avec la Pentecôte, c'est le début de quelque chose. D'ailleurs, certains théologiens disent que c'est le début de l'ère chrétienne. Nous fêtons quelque chose d'incroyable. Parce que celui qui est venu à la Pentecôte, c'est Dieu lui-même, mais qui vient faire de nous ses habitations. Faire de nous les moyens par lesquels le monde va être sauvé. C'est nous les moissonneurs. C'est l'entrée en scène du Saint-Esprit dans l'histoire de l'Église et le renforcement de la personnalité du chrétien. Alors soyons, je ne vais pas dire sensibles, mais soyons ouverts, attentifs aussi à l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Apprenons à prier aussi. Seigneur, remplis-moi ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à voir ce que j'ai à faire dans ma vie. Viens me soutenir dans mes efforts, dans mes combats. Viens m'aider, Seigneur. Et en faisant cela, en menant cette démarche-là, certainement, nous allons encore plus découvrir une dimension de Dieu que nous ne connaissions pas et que nous n'ignorons pas. Ça a été mon expérience personnelle et je souhaite que ça soit la vôtre. Prions. Merci pour ta parole, merci pour la réalité que aujourd'hui nous fêtons l'œuvre de la Pentecôte. Nous fêtons le Saint-Esprit qui vient en œuvre dans la moisson. Merci pour le Saint-Esprit qui est le réalisateur subjectif, individualisé, personnalisé de ton œuvre dans nos vies. Merci. Merci pour tout ce que tu as encore à faire avec nous, avec chacun de nous. Que ta gloire se manifeste, que ta gloire vienne dans cette Église et dans la vie de chaque enfant. Au nom de Jésus. Amen.